Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Julia Faure, cofondatrice de Loom. Loom est une marque française de prêt-à-porter, créée et imaginée par des personnalités engagées. Au micro de Basilic, Julia nous raconte son parcours, comment, après avoir travaillé pour Amazon, puis La Ruche qui dit oui, elle a finalement décidé d'entreprendre. Le discours de Julia peut surprendre lorsqu'on sait qu'elle est à la tête d'une entreprise, puisqu'en effet, elle prône la décroissance, la réduction massive des productions dans l'industrie textile et la durabilité de chaque vêtement. Oui, oui, ses propos sont bien ceux de Julia, chef d'entreprise. Alors, comment cela se traduit-il au quotidien ? Pourquoi Julia a-t-elle tout de même choisi de concevoir et fabriquer des vêtements ? Comment fait-on pour lutter contre l'obsolescence programmée de nos désirs ? Pourquoi et comment convaincre par l'intelligence et non la manipulation ? Nous répondons à toutes ces questions au fil de l'épisode, qui, je l'espère, vous plaira. Très bonne écoute à tous. Bonjour Julia.
Salut.
Comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ?
Très bien. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses, comme d'habitude avec mes invités. On va parler de mode, bien évidemment, puisque tu es à l'origine de la marque Loom. Mais on va aussi parler de l'entreprise. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui a l'air de t'intéresser aussi, de ce que j'ai pu lire de tes multiples interviews, interventions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Oui, je m'appelle Julia, j'ai 32 ans et je suis la cofondatrice de la marque Loom.
Brièvement, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ton parcours pour qu'on comprenne bien, qu'on arrive à te resituer, en tout cas sur comment tu en es arrivée à créer Loom et voilà.
Alors, je vais te faire brièvement pour que vous me situiez. Donc moi, je suis issue d'une famille plutôt bourgeoise de l'Est de la France. Mon père est ingénieur en traitement des eaux usées et ma mère est prof d'anglais. J'ai toujours été une bonne élève. J'ai fait une prépa, puis une école d'ingénieur en agronomie. Ensuite, j'ai été travailler chez Amazon. J'ai pas aimé. je suis partie pour aller faire un master en études de genre. Donc, c'est la construction des inégalités de genre, quoi. Et ensuite, j'ai travaillé à La Ruche qui dit oui. Et ensuite, j'ai rejoint le projet Loom qui avait été initié par mon associé Guillaume Declercq. Et ensemble, on l'a fait évoluer. Et donc voilà, je suis cofondatrice de Loom, mais cofondatrice, ça ne veut pas dire que j'étais là au tout début.
D'accord.
Mais en fait, je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Enfin, on a beaucoup réfléchi avec Guillaume, on était là, bon, c'est pas grave, cofondatrice.
Ok, je ne savais pas, je pensais que tu étais là dès le départ.
Ouais, non, il y a un truc comme ça où on a l'impression que, genre, finalement, celui qui est en charge du projet, c'est celui qui était là au moment de l'idée, etc. Et en fait, c'est pas forcément une bonne vision, parce qu'en fait, les cofondateurs ou les cofondatrices, c'est les gens qui font émerger le projet, quoi. Enfin, c'est les gens qui y mettent leur énergie. Et moi, je suis cofondatrice dans le sens où, à partir du moment où je les rejoins, j'y ai consacré ma vie et j'ai impulsé finalement ma vision, quoi.
Et tu consacres toujours ta vie.
Ouais, une bonne partie de ma vie, ouais.
Est-ce que tu as souvenir, enfant ou adolescente, du premier geste écolo que tu aies fait ?
Je crois que nous, on était stressés avec les robinets d'eau. Alors que maintenant, je me rends compte que c'est... Enfin, quand je me lave les mains, j'éteins, je fais couler de l'eau, je mets du savon. Enfin, j'éteins, tu vois. Et même quand je me lave les dents, je supporte pas, c'est les gens qui laissent couler l'eau, truc comme ça. Alors que je me rends compte que... Maintenant, je laisse un peu les robinets couler pour que mon chat puisse aller bouffer au robinet. Enfin, tu vois, il y a des espèces de trucs absurdes. Je me rends compte que les gestes écolos qu'on nous a appris à faire, c'est beaucoup de gestes individuels et des gestes à faible impact. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus intéressant que mes parents m'apprennent à laisser... Enfin, tu vois, me disent, ok pour faire couler le robinet, mais pas d'avion. Tu peux vraiment laisser couler le robinet tant que tu veux, tu vois. Donc il y a un truc, je trouve que les gestes écolos sont vraiment... Ceux qu'on nous apprend facilement sont ceux qui ont un très très faible impact, qui sont assez symboliques en fait, plutôt que vraiment avec potentiel.
Est-ce que tu as été surprise, estomaquée quand tu as découvert l'impact de l'industrie textile? Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience? Comment t'en es arrivée à t'investir dans ce milieu?
En fait, le truc de l'industrie textile, tu sais, t'entends beaucoup, oui, c'est la deuxième industrie la plus polluante et tout. Ce chiffre est complètement faux. Enfin, il a été débunké plusieurs fois. Puis même quand tu y réfléchis, même si on produit beaucoup de fringues, tu sens que c'est pas ça. Tu sens qu'il y a des trucs plus polluants, etc. Je trouve que les fringues, c'est assez emblématique dans. C'est emblématique de la surconsommation, tu vois. Mais je pense que tout ce qui est consommation électronique. Ça doit être vénère. Enfin, à mon avis, tu regardes en termes de métaux rares, en termes d'impact carbone, en termes de genre de gaspillage de ressources précieuses, ça doit être un niveau bien au-dessus en fait des t-shirts. Donc, je suis pas surprise que ça ait un gros impact parce que pour le coup, je trouve que c'est très visible. Enfin, on le voit que les fringues, il y en a trop. Enfin, on les voit passer, on en fait l'expérience de nous-mêmes. T'sais, c'est comme le truc des emballages. On voit en fait que les emballages, il y en a trop. Mais tu vois, tout ce qui est l'impact des services, on n'arrive pas à le voir, quoi. L'impact du numérique, l'impact de nos voyages, tout ça, c'est très invisible. Donc,
on commence un petit peu.
Ouais, mais on ne le ressent pas dans notre chair. Enfin, tu vois, il n'y a pas un truc où, genre, quand tu fais 4 voyages en avion, tu dois te récolter. T'imagines si tu devais garder à chaque fois, tu vois, genre, une aile de l'avion à chaque voyage que tu fais, tu vois, et que tu dois vraiment gérer, tu sais, avec un truc physique qui symbolise, tu vois, tous les déchets que ça génère. Bah là, tu serais là, putain, mais c'est dégueulasse de voyager et de prendre l'avion, ou c'est dégueulasse d'utiliser autant Internet, etc. Et comment j'en suis arrivée là? Moi, j'arrive plus trop à me souvenir. Je crois que c'était. Donc, d'habitude, ce que je dis, c'est que quand j'ai vu The True Cost, où j'ai vraiment compris, tu vois, tout la globalité, en fait, des problèmes de la mode, mais ça fait longtemps. Moi, j'ai lu No Logo assez tôt, de Naomi Klein. Donc, c'était quand j'étais en Erasmus à Valence, parce que j'avais un prof. Franchement, qui était un peu chelou quand j'y pense. Il nous avait fait une rédac. On devait lire nos logos en espagnol et je devais faire une rédac dessus en français. Le prof, Université de Valence en Espagne, merci.
Okay.
Mais c'était intéressant. Et du coup, j'ai lu nos logos assez jeune, tu vois, à 22 ans. Et en fait, là, donc 22 ans, c'était il y a 10 ans, donc c'était en 2010. Et le livre avait déjà 10-20 ans. Et déjà, elle dénonçait en fait les pratiques des marques. Qui existe depuis les années 90. Déjà, elle dénonçait les méfaits de la délocalisation, de la tyrannie des marques, du découplage entre, du fait que les marques ne possèdent plus leurs usines. Et en fait, déjà, c'était horrible. Et c'est le même constat aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a quasiment rien qui a évolué depuis les années 90. Enfin, je pense que c'est un peu moins pire, mais je suis même pas sûre en fait. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a plus de travail d'enfants dans les usines. Enfin. Il n'y a pas quelque chose de il n'y a pas eu de changement radical, si ce n'est qu'en fait, alors qu'avant, c'était quelques marques leaders qui avaient été délocalisées parce que c'était un bon move business, maintenant, tout le monde a fait ça. Tu vois, de Nike à H&M, en passant par Bash, tout le monde produit en Chine, en Inde, etc. quoi. Donc, je crois qu'assez tôt, j'ai eu conscience de qu'est-ce que ça voulait dire qu'un produit qui est produit loin et qu'est-ce que ça voulait dire en termes d'éthique. Et c'est plus tardivement que j'ai compris l'impact environnemental. Ça me semblait moins important, en fait, au début. Pour moi, c'était les humains et la planète après. Et même si j'étais sensible à ces choses-là, je sais pas, c'était plus le social qui me semblait un motif suffisant de boycott, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je classerais pas une chose au-dessus d'une autre, parce que de toute manière, je pense que les problématiques de justice sociale et environnementale sont liées. Mais je sais que ce qui nous fait réagir, c'est l'environnement. Et c'est assez égoïste, parce que le réchauffement climatique... Enfin, ça va tous nous buter, quoi. Alors que le fait qu'il y ait des gens qui soient en semi-esclavage pour faire nos t-shirts, ça peut durer 100 ans et ça changerait notre vie. Enfin, voire, c'est ce qui améliore le confort de notre vie, quoi. C'est ce qui fait notre confort. Même à plus petite échelle, tu vois. Enfin, à échelle plus locale, tu vois. Genre, je pense tout ce qui est le truc de livraison de bouffe à Paris. Tu vois que c'est, tu vois que les gens qui acceptent ce boulot de livreur, c'est qu'ils peuvent accepter rien d'autre. Mais pourtant, ça n'empêche pas que ces entreprises... sont en hyper-croissance et bon, tu vois, on arrive à consommer ça. Donc il y a un truc chelou dans le fait que la prise de conscience écologique est plus... Enfin, ça parle plus aux gens que la prise de conscience sociale, j'ai l'impression. Alors que moi, j'étais à l'inverse. Enfin, je suis partie plutôt de l'autre côté, quoi.
Au final, c'est les deux que tu essayes de mettre en
pratique. Ouais, non, en fait, les deux sont liés. Enfin, et ça, c'est le plus évident, c'est la crise des gilets jaunes, quoi. Quand tu essaies de faire des mesures écologiques qui appauvrissent encore les plus pauvres, ben, tu c'est une révolution, en fait. Enfin, on est sorti de la monarchie grâce à des trucs comme ça, donc pourquoi pas, si tu veux. Mais enfin, on ne peut protéger l'environnement que si on améliore les conditions de vie des gens pour qui n'arrivent pas à penser à autre chose qu'à la fin du mois, quoi. Et même en termes de justice environnementale, si tu regardes les premiers touchés, bien sûr par le réchauffement climatique, les migrants, etc., mais les premiers touchés par la pollution, tu vois, genre en France ou dans les départements français, c'est les populations racisées, c'est les populations pauvres. Le scandale de la chlordécone, en France, on a des scandales, mais tellement vénères de pollution et de genre de vraiment de destruction de vie humaine, qui sont de l'ordre de ce qu'on peut voir dans les films comme Le Monde selon Monsanto, et qu'on n'adresse pas. Qui, chez les écologistes, parle de justice et de réparation pour les populations martiniquaises et guadeloupéennes qui bouffent de la chlordécone sur des générations et que ça fait des cancers, etc. Je me suis un peu éloignée, mais effectivement, quand tu creuses le sujet, tu te rends compte qu'un sujet ne va pas sans l'autre. Et que l'idée d'une espèce de dictature écologique, ça ne marchera pas, quoi. Enfin, il y a un vrai truc là. Enfin, il faut que la démocratie s'applique partout, quoi.
Et ça ne marchera pas, et ce n'est pas la bonne solution.
Non, c'est pas la bonne. Enfin, tu vois, on le voit. Hein. Enfin, ça sera pas la bonne solution. Non. Bon, j'allais dire on le voit, mais j'ai pas d'exemple. Mais, chez moi, j'entends des gens comme ça qui me disent de temps en temps, ce qu'il faudrait, c'est une dictature, et comme ça, on impose des choix écologiques radicaux et. Et ça marchera, quoi. Enfin, déjà, on n'a pas vu beaucoup de gens moins démocratiques que nous le faire. Enfin, ce qu'on se rend compte, c'est que les prises de position les plus radicales sont plutôt du côté des démocraties, quoi. Et ensuite, si c'est pour mieux vivre dans un endroit sans liberté, c'est pas ça, quoi. Enfin, personne n'aspire à ça, quoi. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui aspirent à ça, mais c'est les gens qui bénéficieraient, en fait, des dictatures, quoi. Oui. Peut-être les héritiers du trône, tu vois, ils disent « bah oui, pourquoi pas mais... ».
Voilà, c'est ça. On revient toujours au même problème, ça c'est sûr. Et donc, si on revient à Loom, vous dites, en tout cas sur votre site internet, que votre but, c'est de mettre fin à l'obsolescence programmée des vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire, l'obsolescence programmée des vêtements, selon toi ?
C'est marrant parce que je pense que depuis quelques temps, là, notre but, il évolue un peu, mais vas-y, je te raconte après. L'obsolescence programmée des vêtements, bon, l'obsolescence programmée, tu vois ce que c'est? C'est genre, t'as des produits qui pourraient durer très longtemps et en fait, on en réduit intentionnellement la durée de vie. Il se trouve que dans le textile, c'est pas ça. Il y a pas, les marques ne font pas exprès de faire des vêtements de merde. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en voulant produire plus vite et moins cher, ben, tu perds en qualité, c'est évident, quoi. Enfin, tu vois, tu perds en qualité et tu perds en éthique. Enfin, tu vois, alors, t'exploites des gens et en gros, tu pollues. Globalement, c'est ça qui se passe. Donc là, c'est un peu le nouveau paradigme de l'industrie textile qui veut produire vite, pas cher, donc qui délocalise, donc qui exploite, donc qui pollue. Et ensuite, qui met 20% de son budget de marketing pour dire à quel point tout ce qu'elle fait, c'est vert. Et il y a une autre manière... Donc, il ne s'est pas vraiment dirigé. Il n'y a pas un truc où elle se dit « Ah, je vais faire des vêtements de merde, comme ça les gens vont pouvoir le racheter. » C'est plutôt une conséquence de ces pratiques de prix et de rapidité. Par contre, ce qu'elle se dit, c'est comment faire pour que les gens rachètent en permanence. Par exemple, faire que des t-shirts blancs de bonne qualité, c'est pas une bonne technique. Qu'est-ce que c'est les bonnes techniques pour faire que les gens rachètent en permanence? C'est de créer une obsolescence programmée du désir. C'est vraiment genre rendre obsolète ton désir une fois que tu as acheté le vêtement. Et pour ça, bon, après, c'est très subtil la mode. Hein. Enfin, c'est si tentaculaire qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte. Mais en fait, tout est fait pour que tu veuilles sans cesse quelque chose de nouveau et pour que tu trouves que ce que tu as acheté ou ce que tu as déjà ne fait plus l'affaire, quoi. Le plus emblématique, c'est, tu vois, c'est les Fashion Week hyper régulières qui sont en fait le symptôme. Ou alors, je sais pas, l'amorce du renouvellement permanent des collections, où toutes les marques se battent pour renouveler de plus en plus les collections. Quand c'est pas des collections, c'est des drops, des pré-drops, des pré-collections, des ventes privées, des éditions limitées, des trucs comme ça. Enfin, tout ce qui... Tous les synonymes de nouveauté, en fait. Et après, il y a d'autres stratégies encore pour te faire désirer ou te faire acheter des choses dont t'as pas besoin. C'est toutes les stratégies de la bonne affaire, qui est hyper dur à résister. Les promos, les 4 pour 1, les préventes, plein de choses qui te font dire « Ah, mais c'est une bonne affaire, il faut absolument que j'achète maintenant, sinon je vais le rater. » Donc ça, c'est que des choses pour t'inciter à consommer plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce truc de nouveauté, là, de la mode, on pourrait croire que c'est lié à la créativité. Comme elle renouvelle en permanence, on pourrait avoir l'impression que ça foisonne de créativité et tout. Et en fait, ce besoin de nouveauté, il est tellement dicté par un rythme rapide qu'il n'y a plus de créateurs, en fait, dans la mode. Enfin, tu peux écouter... j'avais écouté une interview d'une meuf qui était designer pour une marque de maroquinerie de fast fashion et qui disait qu'en fait, elle devait designer 300 sacs par an. Donc, quand tu dois designer... 100 sacs par an. Quand tu dois designer un sac tous les 3 jours, t'as pas le temps de créer quelque chose de nouveau, en fait. Tu peux juste aller acheter un sac à la concurrence ou dans un vintage, le copier et changer un truc. T'as pas le temps de faire autre chose. Et en fait, on pourrait croire que c'est genre seulement quelques marques qui copient et tout. La créativité de toutes les marques, c'est ça. Sauf quelques marques de haute couture et encore. Mais il y a très peu de gens vraiment qui insufflent quelque chose de nouveau, quoi. Donc non seulement on est sollicité en permanence pour de la nouveauté, mais en plus avec une perte de créativité terrible, quoi. Donc vraiment, on n'y gagne rien, quoi. Donc ça c'est le problème de la mode. Donc à la base, oui, notre combat, c'était lutter contre l'obsolescence programmée des fringues, donc pour faire un truc de meilleure qualité, quoi. Et là, je me rends compte que, enfin, je pensais que c'était vraiment le combat le plus important. En fait, je me rends compte que, en fait, l'autre est autant, voire plus important. Enfin, l'obsolescence programmée du désir et en général l'incitation à la consommation. Je me rends compte que c'est ça notre vrai combat. Parce que si j'y réfléchis, Uniqlo, ils font des fringues de super bonne qualité. Uniqlo, ils luttent contre l'obsolescence. Enfin, tu vois, genre, ils font vraiment des vêtements qui durent longtemps. Enfin, tu peux aller. Moi, je les teste souvent en laboratoire. C'est ouf. Ils sont très, très bons avec un rapport qualité-prix imbattable et tout. Par contre, ils essaient de te faire acheter tous les. Enfin, tu vois, genre, c'est comme Decathlon. Tu rentres dans Uniqlo, tu sors toujours avec 4 trucs et t'es là. Pourquoi j'ai pris ça déjà? Est-ce que vraiment que j'ai besoin de ce short sans manches? Donc, en fait, je pense que là, le. Enfin. Je pense que c'est hyper important de faire des fringues de bonne qualité et que ça doit être la base, tu vois, comme c'est hyper important d'utiliser du coton bio, mais tu te... En fait, H&M aussi utilise du coton bio, tu vois, et Uniqlo aussi fait des fringues de bonne qualité. La vraie différence, et pas une différenciation commerciale, mais la vraie différence en termes de quête, c'est genre comment on fait pour lutter contre la surconsommation? Comment on fait pour lutter contre le sens programmé du désir? Et ça, et c'est ça qui est clé, en fait, parce que c'est ça qui relève d'un vrai changement de système. Tout le reste, c'est que des petites améliorations en fait, par rapport à un existant.
Et comment, toi, en tant que chef d'entreprise, tu peux lutter contre ce désir de consommer ou de surconsommer?
Ben, moi, je pense que c'est en parlant à l'intelligence des gens. Hein. Enfin, c'est marrant parce que les gens, ils aiment bien dire qu'il faut éduquer les gens. Alors que c'est tellement malhonnête, tu vois. Enfin, pourquoi on a envie de consommer? C'est pas parce qu'on a suivi des cours ou c'est pas parce qu'on a un espèce d'instinct mauvais, c'est parce qu'on est abreuvé de publicité et de messages qui nous font dire que notre réalité, notre bonheur passe par la consommation et par la consommation de telle chose.
Si tu prends un enfant, mon exemple c'est toujours les enfants, mais parce que les
tu
enfants...
Tu m'étonnes.
Non, mais, d'autant plus maintenant, mais non, mais si tu prends un enfant, il n'a pas besoin, il n'a pas envie, et je ne pense pas qu'il ait ce désir profond de consommer, pas du tout. Mais nous, et alors nous encore plus, nos générations, on a grandi avec ce modèle-là. On a grandi avec ces collections. Mais oui, bien sûr.
Et moi, j'étais franchement, toute mon adolescence, je pense que j'ai pensé à comment m'acheter ce survêt Lacoste et ces Air Max. Vraiment. et du coup, j'ai encore un attrait pour ces marques, alors que genre, je sais ce qu'il y a derrière. Genre, j'aime trop l'esthétique de Nike, alors que je les déteste comme... Mais genre, enfin, c'était tellement fort, c'était tellement tout le but de ma vie à cette époque-là. Et maintenant, tu vois, j'ai déconstruit des choses en lisant, etc. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts? Et est-ce que c'est étonnant? Enfin, en fait, c'est juste que les marques dépensent des milliards pour nous faire désirer, en fait. Des fringues, des iPhones, des bagnoles, tu vois, genre un canapé, un truc comme ça. Je viens d'acheter un canapé mail, donc je te dis. Non, mais tu vois, genre, tout est fait pour ça. Donc, c'est pas que les gens sont pas éduqués. C'est-à-dire qu'il y a une force éducatrice extrêmement puissante dans le monde qui est celle du marketing des grosses boîtes et de la pub. Enfin, des grosses boîtes et pas forcément, quoi. Et qui met toute son énergie, toute sa créativité, toute son étude neuronale, etc. Enfin, qui étudie aussi nos biais cognitifs, etc. et comment marche notre cerveau pour faire rentrer dedans le fait qu'on a besoin de consommer pour se réaliser. Et donc, quand les gens disent, ah, il faut éduquer les gens à pas consommer, à pas surconsommer. Mais qui a la puissance pour lutter contre cet arsenal, en tout cas en termes d'argent, je n'ai pas la puissance. Je peux placarder partout, n'achetez pas trop de vêtements. Enfin, tu vois, genre, je ruinerais ma boîte avant d'avoir le moindre effet, quoi. Ça serait juste pour me faire mousser, moi, tu vois, que je pourrais le faire. Le seul moyen, moi, que j'ai trouvé, c'est d'armer intellectuellement les gens. Et armer intellectuellement les gens, c'est pas les éduquer. c'est les informer, en fait. C'est vraiment genre donner, rendre accessible l'information sur ces sujets-là. Faire prendre conscience, qu'est-ce que c'est que les, quelles sont les techniques que les marques utilisent pour nous faire acheter des choses dont on ne veut pas. Qu'est-ce que nous, on les a appelé ça les dark patterns. C'est le, enfin, tu vois, genre, tu trouves le biais cognitif des gens et tu t'en sers pour faire acheter des choses. Et donc, moi, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est genre, une fois qu'on comprend qu'est-ce que c'est les mécanismes utilisés, les expliquer et les vulgariser, enfin, les expliquer le plus, de manière que ce soit accessible au plus grand nombre. Et la deuxième chose, c'est s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on reproche aux autres. Ne pas faire ce qu'on reproche aux autres, quoi. Et ça aussi, je pense que c'est hyper important. Parce que bon, que tu ailles sur mon site et que tu vois qu'il n'y ait pas d'incitation à la consommation, je ne sais pas si ça va changer le monde. Mais en tout cas, ça montre aussi que c'est possible. Parce que tout le monde essaie de te dire « Oui, vous êtes bien gentil, pas incité à consommer, mais c'est pas possible. » Parce que d'habitude, ce discours, il vient des milieux militants, des ONG, etc. Et les gens, on leur dit « Eh, vous savez pas ce que c'est d'avoir une entreprise. Quand vous aurez une entreprise, on en reparlera. Moi, j'ai des emplois, un truc, moi, je vais faire un truc comme ça et tout. » Nous, je pense que c'est hyper important de le faire pour, tu vois, genre pour notre éthique et nos convictions et tout, mais surtout pour montrer que c'est possible, en fait. C'est pas parce que t'es pas obligé de faire de la merde quand t'as une entreprise, t'es pas obligé de manipuler les gens quand t'as une entreprise, t'es pas obligé de leur vendre de la merde, t'es pas obligé d'aller exploiter des gens à l'autre bout du monde, t'es pas obligé de produire des produits de mauvaise qualité, en fait. Et c'est hyper important, ce truc par l'exemple. C'est hyper important de faire pour pouvoir dire. Et je trouve que... Je trouve qu'en agriculture, ça se fait beaucoup plus, tu vois. Tu vois beaucoup de militants qui tout à coup se mettent à dire, ben, regardez, non, on arrive à produire autrement, etc. Et tout. Et en fait, dans l'industrie, c'est beaucoup plus dur parce que la barrière à l'entrée, tu vois, genre, c'est quand même assez dur. Mais oui, donc voilà. Moi, je pense que la manière de faire changer ça à notre minuscule échelle, c'est de dire la vérité. En fait, l'avantage des discours de vérité, c'est qu'il y a moins besoin de mettre d'argent dedans pour convaincre les gens. C'est qu'il y a quelque chose aussi, enfin, c'est beaucoup plus fort de convaincre par l'intelligence que par la manipulation.
Pour rebondir sur l'agriculture, c'est vrai qu'il y a des militants et des agriculteurs engagés qui montrent que c'est possible, mais néanmoins, l'argument qui leur est souvent retourné, c'est « oui, mais on ne produit pas les mêmes quantités ». Donc toi, tu produis, je ne sais pas, X kilos de tomates par an, et moi, j'en produis des tonnes et des tonnes, et donc on ne peut pas comparer. C'est un peu la même chose avec les vêtements, où toi, on pourrait te retourner l'argument de dire « oui, mais Julia, tu produis pas des vêtements pour des millions de personnes. »
Ouais, ouais. Non, mais c'est bien ça qui est pété, hein, dans la manière de penser. C'est qu'on pense, on pense qu'il faut tout concentrer et on pense qu'il doit y avoir une entreprise qui fait tout, tu sais. Alors qu'on sait, enfin, surtout en agriculture, c'est évident, on sait qu'il faut pas des méga-fermes. Il faut des mini-fermes intensives en main-d'œuvre, etc., en permaculture et tout. Et pour les vêtements, c'est pareil. Il faut pas des méga-usines. Il faut plein de petites usines, en fait. Moi, j'ai été voir des usines où il y a vraiment beaucoup de monde. En fait, c'est horrible. Enfin, en vrai, c'est horrible. Des usines où il y a plus de 300 personnes, c'est abusé, en fait. Oui, en fait, on met des humains, alors que ça pourrait être fait par des machines, parce que c'est genre que le coût de main d'œuvre est tellement optimisé et tellement pas cher que à quoi bon automatiser, quoi. Ces usines-là, elles seront en France, tout sera automatisé, quoi. Donc c'est horrible pour les conditions de travail. Et en fait, c'est pas résilient, en fait, comme modèle. Enfin, c'est vraiment, ça résiste pas aux crises, ça résiste pas aux moindres. Tu vois, au moindre arrêt là, comme le Covid, c'est polluant, ça a des visées monopolistiques, tu vois, genre tu veux avoir la plus grosse usine possible pour, enfin, c'est aliénant pour tout le monde, quoi. Je produis pas les mêmes volumes et j'aspire pas à ça, et je pense que les gens devraient arrêter de produire des si gros volumes, en fait. C'est pas une bonne chose, en fait, qu'on retrouve les mêmes magasins dans toutes les villes du monde. Enfin, vraiment, enfin, si tu réfléchis, tu vois, c'est nul. Tout le monde sait produire localement des fringues et tout. Ça n'a aucun intérêt d'avoir d'avoir des centres de production pour le monde entier, quoi. Donc, les gens qui répondent ça, ça m'inquiète. Enfin, tu vois, en fait, c'est un peu un truc. Les gens qui disent « Ah oui, moi, c'est bien mignon de dire ça, mais vous êtes une petite boîte. C'est plus difficile quand on est une grosse boîte. » Et bien, je vais dire « En fait, c'est justement ça le problème. » Oui, c'est justement le problème, que ton excuse, c'est que t'es une grosse boîte. Alors que le problème de ta boîte, c'est que sûrement que t'es une grosse boîte, c'est que t'as voulu atteindre une telle taille que, ben oui, c'est extrêmement dur de revenir à... Ben oui, enfin, c'est hyper dur quand t'as une grosse boîte d'avoir un vrai engagement militant, enfin, d'avoir un vrai impact positif sur... Enfin, de vraiment faire les choses bien, quoi. Vas-y, même avec la meilleure volonté du monde, j'attends de voir ce que va devenir H&M, quoi.
Je sais pas.
Ouais, moi je sais un peu, mais à mon avis, ils sont pas trop en mode on va augmenter la qualité de nos vêtements et on va arrêter d'inciter les gens à consommer.
J'aimerais y croire.
J'aimerais trop qu'ils disent ça. Ok, demain on arrête la pub. On arrête d'inciter à consommer. une collection par an. On rigolerait bien.
Avec Loom, et donc avec vous êtes 5 aujourd'hui, comment est-ce que ça s'articule au sein de ton entreprise? Comment, je sais que voilà, pour toi, c'est assez important la façon dont tu travailles avec les gens. Comment ça se passe concrètement? Qui compose vos équipes?
Donc, nous sommes Guillaume et moi-même. Donc, on est tous les deux associés. Et nous, ce qu'on garde pour nous, qui est le cœur du métier et qu'on ne veut jamais lâcher, c'est le développement produit. C'est-à-dire vraiment comment faire des vêtements qui durent le plus longtemps possible et qui ont le plus petit impact, se produisent localement et tout. Enfin, vraiment, comment on fait des super bons vêtements, quoi. Alors, à côté de ça, moi, je m'occupe de tout ce qui est relation avec les fournisseurs. Enfin, c'est moi qui... Enfin, moi, je m'occupe de tout ce qui est relationnel, en fait.
OK.
Donc, je vais parler à la presse, aux fournisseurs. Ben, tu vois, à chaque fois qu'il faut avoir des relations un peu avec l'extérieur, c'est pas moi qui fais. Et là, ça me prend de plus en plus de temps, donc c'est assez intéressant. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Donc, développement produit. Et ensuite, l'autre pilier de chez nous, c'est tout ce qui est la communication. Dans le sens, comme c'est une communication différente ce qu'on fait, puisqu'on essaie de produire des contenus intelligents qui permettent aux gens de comprendre le monde, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps et on le délègue pas, quoi. C'est pas, on n'a pas un stagiaire qui fait des articles pour le SEO. C'est moi et Guillaume qui écrivons les articles. Et donc, c'est avec Guillaume, on fait ça. On écrit beaucoup, quoi. Guillaume, en plus, lit beaucoup. C'est beaucoup lui qui lit pour qu'on puisse construire des idées évolutives. Et moi, je lis un peu moins. Enfin, je pense que je lis pas exactement les mêmes choses, quoi. Et après, l'autre chose que j'essaye de gérer dans la boîte, c'est le ton. Car j'ai été nommée responsable blague de Loom. C'est pas. En fait, on dirait pas comme ça, mais enfin, c'est très important pour nous que le ton. En fait, on relit beaucoup ce qu'on écrit et tout pour être à la fois. Tu sais, on parle de sujets graves. Hein. Enfin, en vrai, on le fait avec des blagues et tout, mais on parle quand même, tu vois, genre, d'exploitation humaine et de réchauffement climatique et tu vois, genre d'extinction.
Et sous forme de BD aussi, j'ai trouvé ça sympa pour faire passer le message. C'est très facile à lire et ça parle à peu près à tout le monde.
Ouais, ça, c'est trop cool. Moi, j'ai adoré. On a adoré faire cette BD. C'était trop bien, quoi. Donc voilà, ça, c'est un peu ce que je fais dans la boîte. Et après, bon, il y a tous les trucs stratégiques et tout. Et ça, c'est surtout moi et Guillaume, quoi. Maintenant, on le pense un peu à 5, quoi. Et en plus de ça, avant je faisais plus de trucs, mais heureusement il y a 2 personnes qui sont arrivées. Donc Guillaume, lui, il s'occupe aussi donc production de contenu, enfin production, écriture d'articles et tout, production de d'idées, quoi, et aussi le développement produit avec moi, c'est-à-dire comment, enfin compréhension textile et compréhension environnementale. Et lui, il fait aussi tout ce qui est back office, logistique et tout, no code et tout. Enfin, il a réussi à faire que notre boîte n'ait pas besoin de dev, des trucs comme ça. C'est un malade, hein, du no code, etc. Donc ça, c'est assez... Enfin, il automatise tout. Enfin, franchement, tu vois, sur notre site, il y a un peu des trucs de ouf. Genre, on arrivait là à faire la livraison en Suisse, alors que la livraison en Suisse, c'est une espèce de truc tout pété, parce qu'il faut rembourser la TVA et ensuite leur facturer la TVA et les douanes et qu'ils puissent faire des retours et tout. Et là, on a réussi à le faire de manière complètement automatisée. Je pense qu'il y a... Je sais pas s'il y a des gens qui le font mieux que nous, là, en France. Donc,
Ah ouais, pas mal.
Non, mais il est trop fort. Donc ça, c'est trop cool. C'est assez cool d'avoir un associé comme ça. Et ouais, il fait aussi toute la logistique, voilà. Ça, c'est les 2 trucs qu'il fait. Ensuite, il y a Clément, qui est notre premier salarié, qui lui, c'est un peu notre homme à tout faire, dans le sens, tu vois, genre, on ne savait pas trop comment faire les contrats et on l'a embauché. Et c'est lui qui a fait son contrat, tu sais, pour. Il apprend les RH, il gère tous les trucs. Tu vois, genre demander le PGE là, ou voir les trucs avec les comptas et tout. Mais comme on est aussi trop vieux pour Instagram, c'est lui qui fait aussi le compte Instagram. Jusqu'il y a pas longtemps, c'est lui qui a organisé les shootings et tout. Enfin, c'est un l'homme à tout faire, dans le sens, c'est quelqu'un qui est capable de s'apprendre. Il y a un nouveau sujet.
Suisse.
Ouais, voilà. Mais je trouve que ça fait un peu trop, tu sais, genre office manager dans une startup, couteau suisse.
Swiss nice officer.
Je peux faire aussi bien le côté que. Mais en vrai, il fait ça aussi. Donc, on a embauché 2 personnes. Donc, on a embauché Claire, qui fait quelque chose qu'avant, moi, je faisais, c'est tout le suivi de qualité à la production. Et en fait, c'est une fois qu'on passe une commande à une usine, c'est nous assurer que tout se passe bien. Et ça, en fait, si tu veux vraiment que tes produits soient de bonne qualité, c'est un plein temps. Et elle va s'occuper aussi de tout un projet qu'on a sur la réparation des vêtements et tout, parce qu'elle a une petite passion pour ça. Et la dernière personne qu'on a embauchée, c'est Cécile, qui est à la fois directrice artistique, styliste et dev produit. En gros, sa mission... c'est de rendre Loom beau. Enfin, tu vois, de rendre nos shootings plus canons, nos fringues plus... Enfin, tu vois, quoi, qu'il y a un vrai travail là-dessus de style qu'on n'a pas trop fait parce que c'est pas... Parce qu'on a mauvais goût avec Guillaume. du coup, c'est Clément qui devait le faire. Mais bon, c'est pas son taf non plus. Donc là, voilà, c'est elle qui est en charge de ça. Et c'est assez intéressant parce qu'elle a à la fois une bonne sensibilité là-dessus, mais à la fois elle est ingénieure produit. Donc, comme nous, on a une approche très très ingénieure en fait du vêtement. C'est un super profil pour ça, quoi. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fait dans la boîte.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est cool. Hein. En vrai, je trouve que là, je suis trop contente parce que on est 5 depuis mars. Et avant, on était 3, tu vois, c'était la galère et tout. Et là, c'est pour la première fois, je me dis, ouais, tu vois, genre, chacun a son territoire délimité. Et genre, je trouve que tout roule trop bien, que ça avance bien. Enfin, ça me réjouit, quoi.
Ouais, c'était pas trop difficile de déléguer, d'organiser. Au contraire, c'était un soulagement.
Non, parce qu'ils sont trop forts, en fait. Ouais, je te jure, c'est un peu, tout le monde est, je trouve que tout le monde est très doué, très bonne ambiance et très intelligent et avec une bonne sensibilité. Donc, c'est assez cool de déléguer à des gens que tu te vois qui font les choses mieux que toi. Enfin, moi, c'est le cas, hein. Si elle est claire, elles font mieux que moi le travail que je leur ai passé, quoi. C'est pas mon, enfin, tu vois, parce que c'est pas mon talent et parce qu'elles, parce qu'elles sont fortes, quoi. Donc, je trouve ça pas dur de déléguer, en fait. Je trouve ça intéressant, puis en plus on est 5, donc je vois encore ce qui se passe et tout, donc non, je trouve ça trop cool. En fait, déléguer à des gens qui sont compétents, c'est trop bien.
Ouais, puis ça permet aussi de faire évoluer le projet. Parce que toi, même si tu le fais du mieux que tu peux...
Non, mais je le faisais mal, ouais. Non, en vrai, je le faisais mal.
Non, ou même mal, je veux dire, tu peux pas aller au bout du truc.
Ah non, c'est clair. Ouais, puis en fait, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Enfin, moi j'aime mieux... Enfin, il y a d'autres trucs qui m'intéressent que... Enfin, c'est là-dessus que je dois me développer, quoi. Donc c'est chouette.
Tu disais tout à l'heure que vous testez vos vêtements. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous allez les tirer dans tous les sens?
Il y a un laboratoire avec qui j'adore travailler qui s'appelle SMT. Je les nomme à chaque fois parce que je les aime tellement. Enfin, je les appelle au téléphone tous les deux jours pour leur poser des questions, des trucs comme ça. Et en fait, on le sait peut-être pas trop, vous le savez peut-être pas trop, mais dans le monde du textile, tu as un armada de machines qui permettent de tester des trucs différents. Là, je viens de découvrir une nouvelle machine là, qui est trop bien, qui fait des tests de... déchirure amorcée. Bon, bref, hein, franchement, tu pourras regarder sur internet et tout. En fait, tu as des machines qui arrivent à simuler à peu près toutes les usures. Et donc, nous, on fait beaucoup tester en laboratoire parce que c'est des tests normalisés, tu peux vraiment comparer les vêtements entre eux sur cette résistance-là. Par exemple, un test qu'on utilise beaucoup, c'est le test à l'abrasion, où en gros, tu frottes un bout de ton étoffe contre de la laine abrasive et jusqu'à l'apparition d'un trou. Et ça nous donne en nombre de cycles, en nombre de tours, la résistance d'une étoffe. Et c'est ce qui nous permet vraiment de dire, on va pas prendre cette merde, on va prendre celle-là. Et donc, tu as la même chose sur la résistance des couleurs, la solidité des coutures, genre la résistance à l'attraction, le rétrécissement au lavage, etc. Quoi.
Ah, mais trop bien, j'aimerais trop visiter non, ce mais genre en fait, d'endroit.
Alors, c'est pas très sexe parce que c'est assez labo, tu vois, tout est blanc, etc. Mais en vrai, c'est trop bien et c'est effectivement du porn. C'est-à-dire que comme factory, tu sais, nous on parle de factory porn dans le textile, c'est-à-dire t'as des images de machines, qui font des trucs en répétition et donc c'est assez hypnotisant. Bah dans les trucs de laboratoire aussi c'est assez hypnotisant. Tu sais les machines qui en une fois te déchirent un truc ou enfin c'est non c'est trop cool. C'est trop cool surtout parce que ça, enfin nous c'est tellement le cœur de notre métier, ça nous permet tellement de dire ce qui va pas. C'est au moment du choix des matières premières, au moment où tu veux vérifier les prototypes, tu vois, genre, c'est dans toute la partie du développement produit, quoi. Et après, on a aussi des tests qu'on fait nous-mêmes, tu vois, et maintenant, il y a des trucs qu'on se rend compte que, genre, en mettant, tu fais un cycle de machine à 60 avec essorage vénère, ensuite tu passes au sèche-linge, ça te dit quelque chose quand même sur la résistance d'un vêtement, parce que tous ces tests, ça coûte méga cher, en fait. Enfin, en termes de budget, tout accumulé, tu peux pas tout tester, quoi. Donc il y a aussi des trucs qu'on fait nous-mêmes. Par exemple, tu es en cours de production. Enfin, tu vois, tu as développé un produit. Donc, tu as tout testé. Théoriquement, tout va bien. Mais on va quand même tester quelque chose sur la tête de la production pour être sûr que le tissu qu'on a en production, il a bien les mêmes, tu vois, genre caractéristiques que celui qu'on a testé et tout. Parce qu'on a eu des mauvaises surprises par le passé dans tout ça. Donc, on teste beaucoup en labo en amont. On teste pas mal nous-mêmes pendant la production. Et après, on teste beaucoup aussi des produits sur le marché pour avoir des idées. Des fois, avant de commencer un développement produit, tu vois, on teste en gros un Uniqlo, un Primark pour ça, c'est les deux extrêmes de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, quoi. Voir des fois, on teste aussi des grandes marques pour voir qu'est-ce que ça veut dire une grande marque en termes de qualité. Et c'est assez inquiétant de voir que vraiment, genre l'argent que tu mets, c'est plus tellement, enfin, c'est pas la qualité que tu payes, quoi, c'est la marque. Donc, c'est ça qu'on fait comme test en permanence. Et ensuite, on consigne tout, ce qui nous fait qu'on a une bonne base de données sur qu'est-ce que c'est la résistance des différents matériaux qu'on a utilisés, qu'on utilise, de la concurrence, etc.
Il y a d'autres marques qui font ça ?
Maintenant, il y a Asphalt qui fait ça. Ils le font dans le même labo que nous. Opal aussi ont commencé à le faire. Et je pense que ça va être génial. Enfin, je pense que pour les nouvelles marques qui arrivent sur le marché, ça va être obligatoire. Quoi. Tu peux plus faire des vêtements de merde. Enfin, les consommateurs, ils vont dire bah, super, c'est pour faire de la merde, je vais chez H&M. Ils le font très bien et moins cher. Et après, c'est pas nous qui avons inventé ces labos-là. Donc, ils travaillent pour l'industrie textile, mais pas dans les mêmes buts en fait. Beaucoup sur la toxicologie, tu vois. Enfin, pour s'assurer que tu ait pas des trucs. Parce que l'entreprise ne veut pas pour une question de responsabilité et tout. Et après, c'est assez systématique aussi dans le textile, c'est juste que les exigences qu'ils ont en termes de résistance sont nulles. Tu vois, ils testent, ils disent « Ah, bah, note de 1 sur 5, note de 1 sur 5, super !»
Et tu vois,
alors que nous, on est là, nous, c'est plutôt 4-5 qu'on exige. Donc, ils testent, mais ils n'en font pas grand-chose. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des gens qui en font grand-chose, mais genre... Sinon, c'est pas comment on explique la dégradation de la qualité des vêtements sur le marché, quoi. Donc, je pense que des fois, ils disent attends, on va peut-être pas aller à 1, ça serait bien que ça soit au moins 2, tu vois. Mais oui, en fait, toute l'industrie textile teste. C'est ça qui est rigolo. C'est que les outils, on les a. Enfin, tu vois. Si les gens voulaient faire de la bonne qualité, ils pourraient.
Rigolo et inquiétant.
Oui. ouais.
Après, ça dépend comment tu le vois.
Ouais,
quoi.
Après, là, je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de changer. Enfin, je pense que les marques, elles voient ce qui se passe. Enfin, tu vois, les grandes marques, elles nous regardent et tout. Elles voient ce qui se passe. Tu vois, avec l'explosion de modèles comme Asphalt ou avec nos succès, il y a des trucs qui se disent « Ah ben, il y a peut-être quelque chose à faire sur ça, quoi. » Et je ne donne pas 2 ans avant que tout le monde communique sur la bonne qualité de ses produits. Rien que le succès d'Uniqlo, en fait, ça doit quand même mettre un peu la pression aux marques, quoi, qui doivent se dire « Ah putain, enfin, Uniqlo, c'est quand même assez dingue, hein. » Comme Razia en si peu de temps. Donc, et leur valeur ajoutée, c'est ça, hein, c'est le truc de mon rapport qualité-prix. Je pense que ça va revenir sur le tapis. Après, l'autre truc, l'autre test qu'on fait et que là, je pense personne n'a le temps de faire, c'est maintenant on essaie de porter les produits plusieurs mois avant de les mettre sur le marché. Et la plupart des gens, ils n'ont pas le temps dans leur cycle de production, tu vois. Donc là, tu vois, par exemple, sur le boxer, on va bientôt sortir un boxer. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une mini-production de 80 boxers. On les a vendus à prix coûtant à nos actionnaires. Et du coup, ça nous laisse, tu vois, genre on a 2-3 mois de... Tu vois, ils ont 2-3 mois de portée. Donc, on a leur feedback, plus les garçons de l'équipe portent les boxers. Ils ont une petite obligation de porter les boxers depuis, tu vois, genre un peu plus d'un an maintenant. Donc, on sait vraiment aux portées ce qui se passe. Parce qu'il y a des trucs en labo qui ne te disent pas, en fait. Il y a des choses que tu ne peux pas anticiper en testant en labo, que tu ne penses même pas à tester. Des gènes et des trucs comme ça. Et en fait, c'est aussi important de faire des vêtements qui fitent bien, dans lesquels tu es confortable, parce qu'un vêtement de bonne qualité, mais que tu n'as pas envie de mettre, ça ne sert à rien. Enfin, il finit, c'est comme s'il était à la poubelle aussi, virtuellement, quoi. Donc ça, je pense que le vrai truc, c'est les tests aux portées qu'on fait de plus en plus. Enfin, tu vois, genre nos baskets là qu'on a sorties, on les a portées pendant un an et demi avant de les sortir et on a corrigé nous-mêmes beaucoup de choses, quoi. Donc ouais, ça c'est les tests qu'on fait.
Quand tu dis tes actionnaires, enfin vos actionnaires, parce que vous avez pas d'actionnaires à proprement parler, c'est des individus.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est des actionnaires, bah, tu vois, comme tes darons, enfin comme mes darons ou des potes. C'est en gros, on a fait une levée. En fait, on voulait pas lever de fonds. On avait besoin d'argent. On avait besoin surtout de trésorerie, pas tellement d'argent parce que notre business model il est assez à l'équilibre depuis le début. Mais on avait besoin de trésorerie, c'est-à-dire d'avancer les sous pour pouvoir faire des stocks de nos vêtements. Et donc, on s'est dit qu'on devait faire. Les banques nous prêtaient pas. Parce qu'on était trop petit, parce qu'on est dans le textile, tout. Bref, les banques ne veulent pas nous prêter, sauf la Nef qui nous a fait un petit prêt. Il y a vraiment des gens bien. Et du coup, on s'est dit, on va faire une levée de fonds. On ne voulait pas lever auprès des fonds d'investissement ou des actionnaires classiques parce que ce qu'ils veulent, c'est te revendre 4 ans plus tard à 10 fois ton prix. Donc, ils vont te pousser à la croissance. Ensuite, ils vont te revendre à quelqu'un que tu ne connais pas, quoi. Donc, c'était hors de question. Et du coup, finalement, la meilleure chose, c'est d'avoir des individus qui acceptent de pas faire 10 fois leur mise une fois quand ils ont mis 10€ chez toi, mais qui acceptent au contraire de penser leur investissement comme un PEL. En gros, voilà, peut-être dans 5-10 ans, ils auront 2% par an de leur investissement, etc., jusqu'à atteindre, je sais pas, 1, 2 ou 3 fois leur mise, tu vois. Ce qui me semble beaucoup plus fair, en fait. Enfin, c'est comme ça que les banques, enfin, c'est le principe des prêts, en fait, ça marche très bien. Et donc, on a fait une levée de fonds participative, c'est-à-dire qu'on a écrit dans un article tout ce qui n'allait pas avec les startups et le fait qu'elles lèvent des fonds auprès de fonds d'investissement, à quel point ça mettait en péril à la fois l'environnement, la santé de l'entreprise, l'humain, etc. Et on a dit, bah, nous, on veut pas faire ça, on veut lever auprès de particuliers. Est-ce que ça vous dit ? Et là, ça a été trop cool. On a bouclé notre levée de fonds en 3 jours. On a dû refuser des gens et tout. Et donc, voilà, maintenant, on a 600 actionnaires à notre capital, qui sont bah, des gens, des clients et aussi des gens qui suivaient Loom mais qui aimaient bien le projet et tu vois qui se sont dit ah trop cool et qui ont investi donc c'était trop cool, ça c'était il y a un an.
Et vous échangez avec eux, il y a des
grave.
Vous envoyez des mails
grave. Ouais, ouais. Alors l'autre truc hyper intéressant, bah, ça peut t'intéresser de voir son truc dans l'entreprise, c'est que genre du coup on doit faire des rapports d'actionnaires, on doit leur raconter ce qui se passe dans l'entreprise, mais l'habitude c'est les gens qui investissent dans les boîtes, c'est leur métier donc ils savent tout lire et tout. Nous on doit en même temps raconter ce qui se passe à l'intérieur de Loom, mais avec des chiffres hein, en termes de business.
Vous savez faire ça?
Ouais ouais, on aime bien. Et en même temps vulgariser en expliquant bah voilà, ça c'est notre taux de rupture de stock, ça c'est notre taux de couverture, ça ce chiffre là et tout. Ça c'est un super bon chiffre pour ça. Donc on envoie une newsletter, notre rapport d'actionnaire, rapport d'activité, je pense que ça s'appelle le on vous dit tout. Et vraiment là t'as tout. Enfin tu vois, c'était actionnaire chez Loom, tu sais nos taux de marge, combien on achète les trucs et tout. Enfin, on s'en fout de manière que les gens sachent ça. Donc mais du coup, c'est assez rigolo aussi de vulgariser comment ça marche depuis l'intérieur d'une entreprise. Et encore une fois, tu vois, de montrer avec transparence comment tu fais pour gérer, enfin comment nous, on applique notre éthique à la gestion interne de notre entreprise. Et donc ouais, on leur parle beaucoup. Il y a des fois, on leur demande des services. Tu vois, on est là, ben qui veut tester nos boxers ? Les mecs, ils étaient à donf. Tu vois, en une demi-heure, on avait vendu 80 boxers et tout. On essaie de faire une assemblée générale par an où on se retrouve tous. En vrai, c'est assez cool parce qu'en fait, c'est pas des actionnaires qui sont là pour dire. C'est quoi ce chiffre ? C'est des genre juste une armée de gens qui sont derrière toi et qui sont là, mais vas-y, continue, c'est trop bien et tout.
C'est des vrais soutiens.
Ouais, c'est trop bien. Bon, après, il y a quand même beaucoup de potes et de gens de notre famille dans ce truc. Tu vois, genre mine de rien, moi j'ai découvert après coup que j'avais quand même beaucoup de gens que je connaissais. Enfin, peut-être pas 600 personnes, mais tu vois, genre c'est des gens qui nous aiment, quoi. Qui aiment le projet et tout. Et le projet leur appartient aussi, quoi. Enfin, ils le font beaucoup grandir eux-mêmes. Donc. C'est trop bien, ça c'est trop bien, et même si ça prend du temps, tu vois, de répondre aux questions, de discuter et tout, ça vaut trop le coup, quoi. T'apprends trop de choses, dès que t'as un problème, tu peux dire est-ce que quelqu'un a un truc comme ça, et il y a quelqu'un dans tes actionnaires qui peut t'aider pour ça, quoi. D'ailleurs, Claire, c'est une actionnaire, celle qu'on a embauchée en chargée de production, à la base, elle était actionnaire de Loom, et elle n'est pas devenue actionnaire pour se faire embaucher, tu vois. Elle croyait à mort au projet. Enfin, donc c'était. Et on l'a pas embauchée parce qu'elle est actionnaire. On l'a embauchée parce qu'elle était forte. Mais du coup, c'est assez rigolo. J'avoue que j'étais un peu stomatique parce que c'était elle a genre 25 ans, tu vois. Genre à 25 ans, moi, j'aurais pas mis ma thune. Enfin, je claquais tout dans du Lacoste et du Nike, quoi. Putain.
Tu pouvais pas.
Non. Puis à 25 ans.
Et c'est vrai que ça doit être assez intéressant, justement, ce rapport d'activité et de le vulgariser pour des gens dont c'est pas le métier.
Ouais, c'est trop bien.
Ça doit être hyper, hyper intéressant.
Ouais, et puis les gens ils kiffent aussi. Non, mais parce que, attends, mais moi aussi, il y a plein de trucs, c'est parce qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas sur l'organisation.
Bah, j'imagine, ouais,
enfin, c'est aussi un important au sein de l'entreprise, tu vois, qu'on comprenne, tu vois, genre, tu sais, c'est tous ces trucs-là, ces BP, ces tableaux financiers, ces comptes de trésorerie et tout, qui sont normalement des documents qui sont réservés à 3 mecs qui comprennent quelque chose dans la boîte et en fait, et ils sont là, bah non, mais c'est ça qu'il faut faire parce que non, laissez tomber, moi je connais le business plan et tout. En fait, il y a aussi une. Besoin que tout le monde se réapproprie ces outils-là pour savoir vraiment quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. quoi. Donc rien que sur le fonctionnement de l'équipe et que tout le monde sache ce qui se passe, bah on a besoin de ça. Et ouais, non, même rien que pour nous c'est intéressant. Hein. Enfin parce que moi je suis pas dans les tableaux financiers toute la journée, donc j'ai besoin que quelqu'un me vulgarise aussi ce qui se passe dans ma boîte.
Bien sûr, mais en même temps, comme tu le dis, ça te permet aussi toi de prendre les décisions parce que c'est vrai que si t'as quelqu'un dont c'est le métier qui arrive et qui te dit moi je connais tout, fais-moi confiance. Comme ça peut être le cas aussi, et j'en ai reçu pas mal au micro.
Ah ouais ?
Ouais, bah qui me disait, mais en fait, moi après j'avais l'impression que le projet m'appartenait plus, quoi.
Ah non, parce que nous il y a toujours eu un peu ça. Donc Guillaume, qui est ancien consultant, a toujours fait les BP, les trucs comme ça et tout. Mais en fait, comme on est à deux à prendre les décisions, enfin on a besoin d'être à deux pour prendre les décisions. Et il y a pas, enfin c'est hyper important que chacun ait son domaine d'expertise, mais qu'il puisse être challengé par l'autre, quoi. En fait, moi, je comprends les... Enfin, tu vois, je les fais pas, mais je comprends les métriques de ma boîte et je comprends ce qui se passe en termes d'argent, etc. et qu'est-ce qu'il faut qu'on gagne, etc., etc., quoi. Et je trouve ça un peu chaud, si t'es chef d'entreprise, si tu dois prendre des décisions, etc., de ne pas comprendre ce truc-là. Ça veut pas dire savoir le faire, ça veut dire pouvoir...
Bah oui, mais il faut que quelqu'un soit prêt à t'expliquer et te prenne pas de haut.
Non, mais tu sais, c'est un peu, je trouve que c'est un peu ce truc de l'économie, tu sais. Le truc de l'économie, tu sais, où il y a personne qui comprend vraiment bien ce qui se passe, mais on te dit, attends, c'est le plus important. L'économie, le PIB et tout. Et du coup, ça te justifie un peu. Comme personne comprend vraiment rien, on dit, bah, on va laisser les manettes aux gens vraiment qui maîtrisent ce sujet. Et pour une raison économique, ben, t'auras pas de retraite. Tu vois, genre, non, mais tu peux pas comprendre, mais en gros, c'est ça qui se passe. Et du coup, t'es là. Enfin, non, c'est pas, tu vois, effectivement, je trouve qu'il y a un truc comme ça aussi à l'échelle démocratique, quoi. Comme on comprend pas bien ce qui se passe en termes de thunes, tu vois, on sait pas si c'est grave d'être endetté, on sait pas qu'est-ce que ça fait un PIB, enfin, qu'est-ce que ça mesure vraiment le PIB. J'ai l'impression qu'il y a une armée d'experts, tu vois, qui ont la main sur ce sujet, qui disent c'est trop compliqué, le peuple, faites-nous confiance. Et en fait, qui prennent les mauvaises décisions, hein. D'après mon analyse, là, vraiment, c'est que des mauvaises décisions, quoi.
Il y a une super BD sur le sujet qui s'appelle Economics,
ouais.
Je pense.
Ouais, ouais.
Hyper intéressant. Il y en a deux tomes, vraiment super intéressant. Mais par exemple, Laetitia Vandeval de l'Amazuna, elle, pendant des années, le samedi, elle faisait sa compta, tu vois. Mais sa compta. Elle rentrait dans le dur et elle essayait d'analyser, de comprendre, parce qu'elle était toute seule de toute façon. Et ça, jusqu'à même quand moi je travaillais avec elle, le samedi, c'était consacré à la compta, quoi.
Mais en vrai, je trouve ça, tu vois, ça, je trouve c'est exactement la. Enfin, je trouve ça. Bon, nous, on a quand même un cabinet d'experts comptables et tout.
Elle travaille, si tu veux, pour elle aussi pouvoir comprendre.
Mais ça, peut-être que je pense que c'est exactement la même chose sur l'impact environnemental. Je pense que la grosse erreur des marques en ce moment, c'est de faire appel à un cabinet qui leur fait leur analyse, tu vois. Et en fait, tu comprends rien et tu dois juste prendre pour argent comptant ce qu'ils vont te dire, quoi. C'est les experts qui arrivent et qui disent, ben, c'est ça. Tu vois, alors que si tu comprends, enfin en fait, si, ça veut pas dire que tu peux pas te faire accompagner des gens, mais en fait, il faut que toi tu comprennes foncièrement, tu vois, genre qu'est-ce que c'est, tu vois, genre comment se répartit l'impact sur ta chaîne d'approvisionnement, par exemple. Genre tout le monde, tu sais, dans la mode, tout le monde est là, ah oui, les polybags, tu vois, les polybags, c'est que dalle en termes d'impact environnemental, tu vois. Genre le gros, c'est la teinture. Tu vois, genre, donc tu vois, genre si rien que localiser, tu vois, ta teinture dans des pays où l'énergie est décarbonée, ça a 100 fois plus d'impact que tous les polybags de la Terre. Tu vois, vraiment, si tu fais ça, tu peux t'enrouler de polybag chaque jour, tu vois, genre, et en distribuer à tous les enfants que tu croises sur ton chemin, et encore, ton impact carbone sera toujours, tu sais, 1000 fois inférieur à celui de quelqu'un qui teint dans des pays où tu utilises du charbon. Je trouve qu'il y a un truc comme ça de hyper clé de comprendre les, ouais, de, tu dois pouvoir comprendre tous les enjeux stratégiques et tu dois pouvoir les comprendre en profondeur. Et c'est pareil, hein, nous, notre enjeu stratégique, c'est de faire des vêtements qui durent longtemps. Nous, avec Guillaume, il faut qu'on ait la connaissance textile, pour pas se faire endormir par des gens qui disent non mais ça c'est de la bonne cam, parce que en fait sinon tu maîtrises rien, quoi, sur ce jeu là ça veut pas dire que tu peux pas te faire accompagner par des gens, mais en fait cette connaissance, elle doit être tu dois pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe,
tu dois apprendre et tu dois être en capacité de pouvoir juger aussi, et ça c'est pas facile, et c'est dans l'économie et dans le textile et dans tous les domaines, en fait c'est pas facile du tout. J'ai lu quelque part que tu disais que tu blâmerais pas les consommateurs qui vont acheter des vêtements chez telle ou telle grande enseigne, mais que tu blâmais plutôt l'entreprise. Est-ce que c'est toujours ta position ? Est-ce que tu penses que c'est aux entreprises de changer, de transformer la situation actuelle et qu'on arrête un peu de plomber le consommateur ?
En fait, c'est même pas les entreprises, parce que même les salariés des entreprises.
Ah non, pas les salariés, oui, oui.
Ouais, en fait, moi, je blâme les gens qui ont le pouvoir, en fait, de faire autre chose. Et ne nous voilons pas la face. Il y a des gens qui ont le pouvoir, et si ça ne bouge pas, c'est parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir qui refusent de faire quelque chose. Enfin, en vrai, si du jour au lendemain, il y a le chef de telle entreprise qui décide, ben, on réduit un peu notre croissance, on réduit un peu notre marge, mais par contre, on relocalise, on produit un truc comme ça, c'est fait du jour au lendemain. C'est pas que les entreprises ne savent pas ce qu'elles doivent faire, c'est qu'elles n'en ont pas la volonté. C'est parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ou alors qui estiment que c'est un truc de je sais pas, de hippie, de vouloir protéger l'environnement, ça va. Ou alors que, attends, mais si moi je le fais, les autres ils vont me doubler, etc. Enfin, en fait, ouais, qui sont lâches, quoi. Qui ont une responsabilité sur la survie de l'humanité, et qui ne font pas leur choix. Et en fait, c'est hyper important de le dire. Enfin, c'est criminel de faire ça. Aujourd'hui, quand t'es à la tête d'une grosse boîte qui pollue, aujourd'hui, quand t'es politique et que tu renonces à prendre des mesures radicales, bah, tu joues contre nous, en fait. Enfin, vraiment, c'est genre. C'est notre avenir qui est hypothéqué. Voire, là, c'est plutôt l'avenir des gens qui ont 20 ans aujourd'hui qui est hypothéqué. Donc, moi, je comprends un peu les mecs de 20 ans qui sont trop vénères. Donc, non, qu'un mec qui gagne, ou une meuf qui gagne 2000 balles par mois, aille s'acheter pour 100 balles chez H&M chaque mois, comment je pourrais la tenir responsable de ça, quoi ? Enfin, vraiment, là, genre, elle n'a aucun pouvoir. Enfin, tu vois, très bien qu'elle. Enfin, tu vois, c'est. En fait. Si t'as un pouvoir de consommateur, tu vois, t'as un pouvoir, tu peux voter avec ton porte-monnaie. Effectivement, si tout le monde boycottait, alors il se passerait autre chose, quoi. Moi, j'ai l'impression que pouvoir avoir cette liberté-là, il faut déjà, tu vois, pas avoir de problème d'argent pour voir, tu vois, penser à un peu plus long terme. Il faut être, il faut aussi qu'il y ait des récompenses à ça, quoi. Enfin, moi, dans mon milieu social, c'est beaucoup plus facile de, tu vois, genre d'avoir ma gourde et d'acheter des chips bio parce que ça va être valorisé. Tu vois, donc et c'est même presque un, tu vois, obligatoire, quoi. Donc j'ai des récompenses sociales qui me permettent de m'engager dans la voie de consommateur. Donc les gens qui essaient de blâmer les consommateurs, tu vois, genre les gens qui font la queue chez Zara, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, oh qu'est-ce qu'ils sont nuls les gens à aller dans les fast-food. Enfin vraiment, genre déjà c'est souvent des gens qui prennent l'avion, tu vois, genre qui sont là, ces comptes pauvres qui vont acheter la fast fashion, alors que en gros si tu regardes la pollution de la planète, c'est les riches. Enfin vraiment c'est les riches.
Bien sûr.
C'est vraiment genre je pense que tu peux, voilà, encore une fois, tu peux bouffer McDo tous les jours si tu prends pas l'avion, bouffer McDo tous les jours et te déplacer en 4x4. Vraiment si tu prends pas l'avion, ton impact carbone, il est toujours plus faible. Et du coup non, le truc de vouloir blâmer l'individu, c'est une manière de détourner les yeux de qui est la responsabilité. Et là, il commence à avoir des tribunes et des manifestes qui parlent de ça, qui dénoncent en fait l'effet colibri. Et à côté, moi, je suis méga. Je trouve ça méga important pour moi de faire des petits pas, etc. Mais en fait, c'est une stratégie encore une fois des industriels pour détourner l'attention. Qui fait la plus grosse campagne pour trier les déchets et pas jeter les bouteilles plastiques dans l'océan? C'est Coca-Cola, le metteur sur le marché de toutes ces fucking bouteilles plastiques. Enfin, il y avait un cache investigation qui l'avait hyper bien expliqué, quoi. Donc, le fait de détourner l'attention, de dire chacun fait un petit geste, au lieu de dire il faut un changement drastique de système, à commencer par le haut. Ben oui, c'est une manière de pas changer de système. Alors qu'il faut changer de système. Là, on a plus le temps en fait de troquer nos pailles en plastique pour des pailles en bambou. C'est très bien les pailles en bambou. C'est pas ça le problème. Enfin vraiment. Et c'est très bien de plus avoir de polybag.
C'est l'arbre qui cache la forêt.
Ouais. Non mais c'est genre. Tu vois genre que la législation ça se mette sur les pailles. Alors que tu vois c'est minuscule comme chose, c'est vraiment Et non mais j'aime bien moi qu'on interdise les pailles et qu'on file 7 milliards à Air France, tu vois. Enfin genre je trouve ça assez intéressant. Enfin et c'est pareil la taxe gilet jaune, quoi. Enfin vraiment genre alors que le kérosène on sait que c'est toujours pas taxé, etc. et que tu peux avoir des vols internes qui sont moins chers que de prendre le train. Non, bah si on faisait plutôt augmenter tu vois genre l'essence pour les pauvres, quoi. Enfin c'est le tabac, l'alcool. Enfin tu vois genre il y a un truc assez intéressant sur
Mais moi, j'attends le jour où tous ces dirigeants qui ont eu le pouvoir seront jugés, par exemple, pour crime d'écocide.
Mais tu sais quoi, même pas, en fait, parce qu'ils ont quand même un truc sexy, là, tu vois, genre Emmanuel Faber, tout le monde est là, c'est super ce qu'il dit, quoi. Enfin, mec, t'es quand même à la tête de Danone, il n'y a toujours rien qui a été fait. Est-ce que tu continues de vendre de l'eau dans des bouteilles en plastique? Oui, arrête de parler, alors, fais quelque chose, quoi. Et arrête de faire les certifications Bicorp, etc., quoi. Et en fait, et je trouve qu'en plus, on voit la différence entre les entreprises qui s'engagent vraiment et celles qui ne s'engagent pas. Genre Biocop, ils ont arrêté de vendre de l'eau en bouteille. Ils ont arrêté. C'était genre un de leurs best-sellers. Ils ont arrêté. Biocop, ils ne prennent pas des putains de légumes pas de saison. Parce que même si ça leur fait réduire le climat, en fait, ils sont capables de choix radicaux qui sont représentatifs en fait de leur engagement et pas seul et pas de faire des milliers de discours et des milliers de campagnes de pub pour dire avec vous tout le temps. Tu vois, genre avec une espèce de jingle et deux mains et une main noire et une main blanche qui serrent et qui s'embrassent et qui pour disent ensemble le monde de demain il est mieux, tu vois. Mais à côté de ça, c'est genre les mecs font rien du tout. Enfin. Bon, je me suis un peu emballée. Ça devait pas être très clair, mais non seulement c'est leur responsabilité, non seulement ils arrivent à détourner la responsabilité, à faire croire que c'est la faute globalement des consommateurs et plus précisément des pauvres, hein, qui sont aussi pas éduqués, qui continuent à consommer et qui savent pas que le bonheur, ça va pas là-dedans. Ils arrivent à se faire remettre des distinctions, tu vois, genre comme personnalité engagée, comme à quel point ils s'engagent pour l'environnement, et ensuite ils font de la philanthropie. Tu vois, genre, et Jeff Bezos qui, tu vois, après avoir envoyé je sais pas quoi sur Mars et vouloir faire avec ses délires transhumanistes, file tout à coup je sais pas combien de milliards pour la planète, et ben, qui peut aller lui dire que c'est pas bien, tu vois. Donc il y a un espèce de truc, genre, non seulement ils détournent la responsabilité, mais en plus à la fin, ils arrivent à se faire passer pour des héros. Et c'est quand même assez fort.
Ça me vénère.
Donc, mais je pense qu'il y a quand même un truc, là il y a un mouvement qui est en train de sortir qui commence à dénoncer ce truc de faire pourquoi. Faire peser autant sur les consommateurs, ce n'est qu'une stratégie pour détourner l'attention de ce qui compte vraiment. Et pourquoi c'est une manière de ne pas changer le système.
J'ai l'impression aussi qu'on en parle davantage. Et
pour contrer cette image du « tout est dans la responsabilité du consommateur », c'est contrer les milliards de pubs qui sont mis sur ce terrain-là, les milliards de propagandes qui sont mis dans ces terrains-là. Donc la seule arme qu'on a contre ça, c'est la connaissance et l'intelligence. Et effectivement, on peut pas demander à tout le monde de creuser ces sujets pour comprendre...
De prendre le temps de le faire.
Oui, de comprendre à quel point les stratégies... tu vois, les stratégies d'industriels sont pétées, quoi. Genre, et malsaines, et malhonnêtes, etc., quoi. Bon, après, il y a des gens qui vulgarisent ça très très bien, quoi. Et dans tous les secteurs, on a vu ça, quoi. Enfin, tu vois, genre, dans le secteur du tabac, dans le... Enfin, tu vois, genre, je sais pas, j'ai vu 1000 documentaires qui expliquaient ça, mais c'est parce qu'à partir du moment où le sujet m'a intéressé et que je vois un pattern qui se retrouve dans différentes industries, bah, je me dis, ah ouais, c'est vraiment...
Non, c'est possible de s'informer, mais là encore, s'informer, ça prend du temps, c'est pas à la portée de tous.
Puis il faut avoir envie... Enfin, c'est déprimant aussi.
Voilà.
En vrai, moi, je comprends qu'il y ait des gens qui se disent, en fait, j'ai plus envie d'entendre parler de ça. Parce que, genre, moi, les gens de 20 ans, je me dis, tiens, les mecs, là, tu vois, ils ont eu 20 ans pendant le confinement, tu vois, genre, depuis leurs 13 ans, on leur dit, haha, la planète est en train de crever, et en 2030, il n'y aura plus de nature, tu vois, qui voit. Moi, j'ai revu ma prof de prépa bio, là, et elle m'a dit, cette année, tu sais, il y a un dossier à faire, il y a les TIPE, je sais pas quoi, un espèce de dossier que tu dois faire et que tu dois présenter, et cette année, le thème, c'était les océans. Et sur, donc, 20 dossiers, les 20 parlaient de, tu vois, des problèmes, enfin, tu vois, de tout ce qui n'allait pas dans les océans en termes écologiques. Alors que tu vois, genre moi à mon époque c'était pas ça. Enfin tu vois, moi j'avais fait un truc sur le développement des tardigrades dans les boues, tu vois. c'était plutôt dégueulasse, mais tu vois personne n'a parlé de la beauté des océans, des trucs comme ça ou des trucs un petit peu rigolos qui se passent. Enfin les jeunes, là les mecs de 20 ans, ils sont tous avec un poids, tu vois, genre sur ce qui va leur arriver, ce qui va arriver à leur planète, hyper 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 lourd et on leur parle tout le temps, on n'arrête pas de leur créer une anxiété, tu vois, genre qu'ils ne devraient pas avoir en fait, ils devraient pouvoir vivre librement, surtout que ce n'est pas leur faute, c'est vraiment la faute, tu vois, genre de deux générations au-dessus d'eux qui eux pour le coup, les mecs de 60 ans qui sont en train de se faire kiffer la vie et tout, et qui prennent des croisières et des avions à tout va et qui adorent les dusters. Et du coup, je comprends que les jeunes, ils aient plus envie de, enfin tu vois, ils aient pas envie de penser qu'à ça et de, enfin je comprends aussi qu'on veuille ne pas sombrer dans la dépression. Enfin, toi, tu nous avais-tu dit, enfin, genre, c'est dur de pas sombrer dans la dépression quand on a connaissance de tout ce qui se passe.
C'est pas facile, ouais.
Donc, enfin, tu vois, genre, enfin, vraiment, c'est nous en tant qu'individus, ce qu'on peut faire, c'est faire pression sur les gens qui ont le pouvoir. Mais c'est dur. Qui arrive à faire pression sur Jeff Bezos?
Pas moi.
Moi, j'ai travaillé chez Amazon, j'ai pas réussi. Mais...
Eh bien, merci beaucoup, Julia. Je pense qu'on a fait le tour de mes questions. C'était très intéressant. Et puis, il y a mille et une ressources sur le site de Loom. Sur vos réseaux sociaux, il y a plein de choses à lire pour creuser le sujet. Donc, j'invite les auditeurs à consulter tout ça. Et puis, à la prochaine.
À la prochaine.